On a découvert un document un peu par hasard sur Internet et puis on l'a épluché, on a essayé de bien le comprendre et ensuite on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à en parler un peu dans notre entourage et qu'on a fini par organiser des réunions publiques et qu'on se retrouve là ce soir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant des recherches sur les carrières en Maurienne, par rapport notamment à sur Modane, là, il y a une carrière qui est plus ou moins en réouverture, hein, une carrière qui avait été fermée et qui est en train d'être réouverte. Donc on a voulu voir un peu de quoi il s'agissait. En faisant des recherches, en tapant le mot « carrière » sur Internet, Maurienne, on est tombé sur un énorme document de 240 pages, ça s'appelle une demande d'étude au cas par cas. Et quand on a vu ce document, quand on a vu un peu les photos à l'intérieur, quand on a vu de quoi il s'agissait, donc on s'est inquiété, on a contacté les élus dans nos communes, la communauté de communes également, et en fait, à peu près tous les élus qu'on a contactés nous ont répondu qu'ils n'avaient aucune info sur ce sujet. Donc c'est là, comme je vous disais, qu'on a souhaité commencer à partager ces infos. Hein, c'est simplement une démarche citoyenne. Et par exemple, une étude au cas par cas, en fait, c'est un document qui est fait pour montrer, quand on a un projet quelque part, c'est fait pour montrer qu'il n'y a pas d'incidence importante sur l'environnement. Et là, cette étude au cas par cas, en fait, elle est là pour faire la demande d'ouverture de carrière au-dessus de Saint-Jean, dans la vallée de l'Arvan, et en Haute-Maurienne. Et donc, suite à cette étude cas par cas, il y a l'Agence de l'environnement donc, qui a reçu cette étude. Elle a quand même tenu à faire une étude environnementale. Voilà, donc en fait, la demande au cas par cas n'est pas passée comme ça directement. Donc heureusement, donc l'autorité environnementale va devoir mener cette étude au préalable. Donc ensuite, dans ce cadre-là, il va y avoir une concertation préalable. Ça, c'est la Commission nationale du débat public qui s'occupe de ce sujet. Donc deux garants ont été nommés. Donc ces garants, ils ont pour rôle d'aller au contact des acteurs locaux, des associations, des élus. Ils ont rencontré les maires des secteurs concernés au mois de juillet. Donc nous, on les a contactés, ces garants, pour essayer d'avoir des explications. Donc ils nous ont dit beaucoup de choses sur la procédure, sur le calendrier. Et donc ils nous ont aussi dit que c'est des gens qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Ils sont vraiment là pour ça, ces deux garants. Voilà, donc eux, ils sont censés être impartiaux, ils sont là simplement pour rapporter des infos objectives à l'État sur la vie des gens dans la zone concernée, sur leur vision du projet, pour recueillir leurs avis. Ils sont aussi là pour veiller à la qualité de l'information qu'auront reçue les habitants des zones concernées. Ils nous ont donné un conseil, le conseil principal qu'ils nous ont donné, c'est de se regrouper pour qu'on soit le plus informé possible et pour être prêt au moment de ce fameux débat public. Donc en fait, si j'en reviens un peu à cette demande d'étude au cas par cas, là, ce projet d'ouverture de carrière, comme il a un fort impact environnemental, donc il y a l'obligation d'en passer par cette CNDP, hein, on vous en parlera plus tard, c'est quelque chose qui a été créé finalement assez récemment, dans les années 2010, donc la concertation, c'est un temps d'échange, de recueil de l'avis de tout le monde. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand aura lieu cette concertation. Ça devait être là fin d'année, début d'année prochaine, et ça risque d'être repoussé. Et ce qui se passera, donc, suite à la concertation préalable, donc le préfet va recueillir le dossier, et ensuite, l'État a trois solutions. Il peut choisir de poursuivre le projet en l'État, il peut choisir de le modifier ou alors il peut choisir de tout arrêter. Voilà. Donc nous, les élus qu'on a rencontrés au tout début là, de nos démarches, ils tentaient de nous rassurer, ils disaient qu'on avait le temps, on avait l'impression qu'ils n'y croyaient pas tellement à ce projet. Et petit à petit, à force de venir aux réunions publiques, à force de lire les documents qu'on leur a fournis, on a quand même l'impression qu'ils prennent un peu plus l'ampleur de la lourdeur du projet. Voilà, donc moi j'en ai fini avec la présentation Je vais passer la parole à Fred qui va vous parler de la ZSC, ce que c'est qu'une ZSC justement.
Alors, donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une zone spéciale de carrière qu'on va appeler tout le long de la présentation ZSC. Donc, en fait, en introduction de l'étude au cas par cas, il y a tout un échange, il y a plusieurs courriers qui constituent des échanges entre les différentes instances de l'État. Et dans un de ces courriers que vous voyez là projeté, il est daté du 8 décembre 2021, entre le directeur de l'eau et de la biodiversité et l'autorité environnementale. On apprend des choses vraiment très intéressantes. Ce courrier, en fait, il explique, on va le voir en zoom un petit peu plus loin, qu'il existe un article du code minier, le 321.1, qui prévoit que, donc là, je vais vous lire l'article, hein, en cas d'insuffisance des ressources connues et accessibles d'une substance relevant du régime des carrières, ici, donc, c'est gypse et anhydrite, et qui présente un intérêt économique national ou régional reconnu, l'État a la possibilité d'instaurer, par décret du Conseil d'État, une zone spéciale de carrière dans laquelle l'exploration et l'exploitation d'un gisement est possible sans le consentement des propriétaires du sol. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous a intéressés parce que ça nous paraît relativement grave. Et en fait, je vais m'expliquer un peu là-dessus. Donc, sans le consentement des propriétaires du sol, ça veut dire que le propriétaire reste propriétaire. Il n'y a pas de processus d'expropriation. Mais en fait, c'est un peu comme une réquisition. C'est-à-dire que même si le propriétaire est propriétaire de son terrain, il n'a aucun droit sur ce terrain pendant la durée de la ZSC. Et aucune autorisation ne lui sera demandée pour l'exploitation ou quoi que ce soit. Donc on apprend un peu plus loin dans le courrier que la Maurienne est connue des services de l'État pour deux choses, son gypse, bon ben ça c'est pas une surprise pour nous, et un foncier qui est extrêmement morcelé. Donc du coup, il y a énormément de propriétaires en Savoie en général, et notamment en Maurienne. Et ce qui rendrait un processus d'expropriation extrêmement long. Donc, en parallèle de ces informations, on apprend que l'usine de Chambéry, Placoplâtre, fait part de son inquiétude au service de l'État concernant l'appauvrissement du gisement de Saint-Jean-de-Maurienne exploité par la Sojima. Donc là, vous êtes directement dans le sujet. Et du coup, Placoplâtre, en gros, demande à l'État de lui trouver une solution pour lui trouver du gypse. Et l'État propose une solution, somme toute assez radicale. La création d'une ZSC en Maurienne, donc d'une zone spéciale de carrière en Maurienne, pour passer au-delà de l'expropriation qui serait trop longue devant l'urgence de Placoplâtre, de la situation de Placoplâtre. Donc, cette instauration de ZSC permet de s'affranchir des droits des propriétaires. Sachant qu'une ZSC, une zone spéciale de carrière, n'est pas une gigantesque carrière, on n'est pas dupe là-dessus, on n'a jamais fait passer ce message-là. Mais c'est bien un périmètre à l'intérieur duquel il y aura dans un second temps la possibilité de délivrer des permis exclusifs de carrière, qui sont normalement soumis aux autorisations des propriétaires. Mais là encore, l'État trouve une subtilité en posant des autorisations de recherche pour passer outre les propriétaires. Ces permis donnent à leurs détenteurs l'exclusivité de la substance et la possibilité d'instaurer déjà des sources, des routes d'accès, des servitudes, des zones de concassage, de grillager les lieux. Donc, la ZSC constitue une première étape. Dans un second temps, il y a donc les permis de carrière. Et en troisième étape, on a, sous autorisation préfectorale, la phase d'exploitation qui peut démarrer et qui est donnée pour une durée de 30 ans maximum. On peut donc imaginer que dans ce périmètre défini de ZSC, qui est amené à évoluer un petit peu s'il y a un petit peu de contestation, les deux autres étapes, une fois les deux autres étapes passées, il y aura des points de carrière exploitables dans la ZSC pour 30 ans, suivis de phases de réhabilitation. Et on apprend dans le dossier de 240 pages que la phase de réhabilitation, elle peut aller jusqu'à 15 ans. Donc en gros, pour un point de carrière, on en prend pour 50 ans de nuisance. Ces points de carrière seront déplacés en fonction des gisements. Je vais laisser la parole à Agathe qui va vous parler de quantité, enfin qui va vous donner des chiffres déjà sur notre coin de Maurienne.
Alors, bonsoir tout le monde. Donc comme l'a dit Fred, je vais vous présenter les chiffres, les hectares, le tonnage et la durée de l'exploitation. Alors en fait, c'est 6 970 hectares qu'ils ont trouvé intéressants en Savoie pour le gypse, dont 1031 hectares qu'ils ont dessinés. Comme on peut... Non, on ne peut pas voir la carte tout de suite. Donc, ils ont trouvé 404 hectares sur l'Arvan et 627 en Haute-Maurienne. Sur ces hectares, évidemment, ils ne vont pas creuser de partout. Il y aura des zones, comme l'a dit Fred, des zones d'accès, des pistes, voilà, des pistes d'accès, des zones grillagées et aussi des zones de concassage. Ils ont trouvé 29 millions de tonnes de gypse intéressantes en Maurienne, en tout en Savoie, dont 14 millions de tonnes en Haute-Maurienne et 15 millions de tonnes en Arvan. Ce qui permettrait à Placoplate d'être approvisionné sur une durée de 120 ans. Donc actuellement, elle est approvisionnée des 200 000 tonnes par an. Et donc là, ça lui permettrait d'être approvisionné pour 120 ans, à hauteur de 200 000 tonnes.
Alors, maintenant, je vais vous parler des enjeux et des impacts de ces ZDC, parce que dans le dossier de 240 pages qu'on a épluché, il y a une grosse partie qui nous décrit les enjeux et les impacts. Ce dossier de 240 pages, en préambule, je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut le lire, je pense. Nous, on vous en fait, on vous en fait un résumé, on vous sort quelques pages, hein. D'ailleurs, il y avait les pages qui étaient indiquées à chaque fois. Pourquoi je vous invite à le lire? Parce que, il va y avoir la concertation. On a insisté sur le fait que cette concertation était importante, parce qu'il faudra amener des choses concrètes à l'État pour lui dire, bon, peut-être que là, vous avez oublié des choses, peut-être que ça, c'est plus grave que ce que vous pensez, etc. Et pour arriver à ces concerts, enfin, pour arriver avec des arguments concrets, pertinents, eh ben, il faut prendre connaissance de ce dossier. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est un peu long, hein, c'est sûr, mais tout le monde est capable. Et ça permet vraiment de bien comprendre les objectifs de l'État. Alors, dans ce dossier de 240 pages, donc je vous disais, il y a une grosse partie sur les impacts. D'abord, je vais vous présenter la description des travaux, parce qu'ils nous font une petite description des travaux. Donc, dans un premier temps, il y aura du défrichement, création de pistes et des zones d'exploitation, et des zones où il y aura le concassage, parce que le gypse sera pas, enfin, sera concassé sur place, sinon ça prendrait trop de place dans les camions. On nous explique aussi que la découverte se fera en commençant par les parties hautes. Donc c'est pour ça que d'abord l'objectif c'est de défricher et ensuite on va gratter par-dessus pour sortir le gypse. Pour l'extraction, bien sûr, donc il y aura des tirs de mine, l'utilisation de pelles hydrauliques, raboteuses. Et puis pour le transport, on nous explique aussi que donc, ça sera par tombereau. Et quand même qu'on essaiera d'utiliser les trains en allant à la gare SNCF la plus proche, donc Saint-Jean ou peut-être Saint-Julien.
Saint-Julien.
On a entendu ça de la part de certaines de personnes de la SNCF. Voilà.
Il n'y a pas de gare.
Oui, mais ça serait peut-être justement le moment d'en faire une.
Que pour les gens, c'est pas pour les gens.
C'est une compensation pour le tunnel.
Ensuite, alors les impacts. Alors, ils ont essayé de faire des tableaux de synthétique. Il y a des grandes parties où c'est décrit de façon littéraire, et puis il y a des tableaux. Donc là, sur le milieu humain, alors j'ai surligné certains. On a surligné certains passages qui nous paraissaient intéressants. Donc l'État a bien conscience qu'on est quand même dans une zone touristique et que forcément, l'extraction de gypse, ça va impacter le tourisme. Donc, par exemple, et bien sûr, là au milieu, vous voyez, alors modérée, faible, forte, c'est l'échelle qu'ils ont choisie pour nous donner en fait l'impact, la valeur de l'impact qu'aura l'extraction de ce gypse. Donc, le tourisme, ben, ça sera une incidence forte, ok, forcément. Au niveau de l'agriculture aussi, chasse et pêche, et, infrastructure routière. Alors, l'impact sera fort parce qu'il nous explique aussi que grâce à l'extraction du gypse, on va pouvoir aussi protéger les routes qui seront en contrebas des zones exploitées. Ça, c'est un aspect positif. Encore sur le milieu humain, la qualité de vie et la pratique des loisirs, l'incidence sera forte. Alors, négatif et positif, vous voyez, il y a la phase extraction et la phase réaménagement. Alors, c'est sûr que pendant l'extraction, ça sera négatif, mais par contre, après, une fois que ça sera réaménagé, on vivra vachement bien. Donc, c'est positif. L'économie industrielle, l'intensité est forte, parce que l'un des arguments, l'argument principal, en fait, de l'État pour ce projet, c'est de dire on a besoin de gypse pour la rénovation énergétique, rénovation des bâtiments, pour isoler les bâtiments. Alors, vous allez me dire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin du gypse, le gypse n'est pas un isolant, mais pour les finitions, on a besoin de plaques de plâtre. Le trafic routier, donc l'incidence sera forte pendant l'extraction et négative. Alors, ça c'est, je crois que c'est dans la partie poussière, l'extraction peut créer des nuisances pour les riverains en lien avec les engins d'extraction et principalement l'émission de poussière à cause de la circulation des engins et des camions. Donc tout à l'heure, je vous disais de lire ce dossier, et de le lire de façon critique, parce que, par exemple, dans ce dossier, on ne nous parle pas des poussières de gypse. Voilà, on nous parle des poussières des engins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être amener à la concertation en disant « bon, vous n'avez pas pensé aux poussières de gypse ». Le bruit, alors forcément, pendant l'extraction, les véhicules, les tirs de mine, etc. Et alors, on nous dit qu'il faut souligner que les secteurs visés sont situés en fond de vallée et évitent les secteurs urbanisés. Alors, c'est sûr que, vu de Paris, on représente 20 000 habitants, hein, on va dire, de Saint-Jean à Bonneval. Donc c'est sûr que c'est très peu et on peut considérer que c'est pas urbanisé. Les incidences ne concernent que les habitations riveraines les plus proches. Une évidence. Ça, c'est le résumé des poussières et du bruit. Les impacts sur la santé. Alors, ça, c'est pas extrait du dossier de 240 pages, c'est extrait du document de la réponse de l'autorité environnementale qui nous dit que l'absence d'incidence notable sur l'environnement et sur la santé humaine n'est pas démontrée. L'impact paysager, donc c'est sûr qu'il faut imaginer pour les gens qui aiment bien se balader en montagne, on verra des zones d'extraction un peu partout. Hein. Et puis l'impact écologique, c'est le seul impact en fait qui est dont l'intensité est forte à très forte. Donc c'est vrai que nous, du côté de la Haute-Maurienne, on a pas mal de ZNIEF, on a une ZICO, on a une zone aussi de Natura 2000 qui est dans la ZSC, mais un décret européen permet de passer outre cette zone de conservation Natura 2000. Dans la partie de l'Arvent, l'impact écologique est moins important, d'après eux, parce que il y a moins de zones classées ZNIEF ou ZICO. Alors au détour du dossier... on voit cette phrase dans les enjeux secondaires associés. L'extraction de ce gypse permettrait d'offrir un débouché aux terres sulfatées extraites du chantier Lyon-Turin dans les carrières de gypse. Fonds géologiques compatibles. Alors, voilà, tout à l'heure, Patrick nous disait que le gypse, si on l'enlevait, ça pourrait faire descendre la montagne. Bon, ben là, ça pourrait être un moyen, finalement, de retenir la montagne. Hein, parce qu'à la place du gypse, on va mettre les gravats de telt et puis on sera sauvé. Voilà, alors là, c'est la partie chronologie. Je laisse la main à Noémie.
Bonsoir. Je pense que ma partie sera peut-être un peu coupée parce que on a avec nous, en fait, le garant du débat public. Il est en visio. Je crois qu'on a oublié de l'annoncer. Du coup, en fait, il nous suit et en fait, il avait une heure devant lui. On le remercie d'être là. Et du coup, si vous voulez lui poser des questions, et je lui laisserai présenter la concertation préalable au milieu de ma partie. Donc, moi, le premier document que je présente là, c'est tiré du schéma régional de carrière. En fait, on l'a mis parce qu'on a compris, en fait, en creusant un peu, que ça datait pas d'hier. Le dossier, en fait, ils ont fait donc l'étude de tous les gisements de 2017 à 2021. Et donc, c'est à l'issue de ça que les gisements de Maurienne ont été reconnus d'intérêt public, enfin d'intérêt national. Et donc, on voit que en 2020, il y a une petite tache jaune là-bas à droite. En fait, c'est la concertation préalable du SCOT. Et on a retrouvé aussi dans le SCOT, qui a été approuvé en 2020... dans le document d'orientation et d'objectifs, page 52-53, en fait, le lit de cette histoire de ZSC, puisqu'on parle déjà des gisements et du fait qu'ils pourraient être exploités sans nommer la ZSC vraiment. Ensuite, on a, en fait, dans l'objectif de comprendre comment s'articule, je veux bien que tu changes de diapo, comment s'articulent les démarches administratives aboutissant à la création d'une ZSC, parce que ça a été assez compliqué au départ, on a fait une frise chronologique. Du coup, donc qui part de, donc de 2017 à 2021. En fait, il y a l'élaboration du schéma régional de carrière. En 2021, la reconnaissance d'intérêt national des gisements, comme je disais juste avant. Et donc, le 8 décembre 2021, la demande d'instauration de la ZSC maurienne. Donc là, j'ai fait un zoom justement sur 2022-2023, parce que c'est hyper condensé. Donc, vous voyez, au départ, le 8 décembre, la demande d'instauration. Le 15 décembre, ils fournissent la première partie de l'étude au cas par cas. En janvier, on leur demande des informations complémentaires. En mars, elles sont déjà là. Ça, c'est tout le dossier de 240 pages. Et donc, le 29 mars, fort heureusement, puisque l'impact sur le côté humain n'a pas été assez démontré, enfin, le peu d'impact sur le côté humain qu'ils mettent en avant n'est pas démontré, l'autorité environnementale demande quand même une étude environnementale. Donc l'étude au cas par cas ne suffit pas. Pourtant, c'est vrai qu'elle était très très détaillée et que des gens qui ont l'habitude de lire ces documents s'y laissaient prendre à se demander si c'était pas déjà l'étude environnementale et pensaient que du coup, s'ils avaient fait une étude aussi poussée, c'est qu'ils avaient espéré, alors qu'il y a plus grand monde qui passe à travers aujourd'hui, échapper à l'étude environnementale. Donc, en parallèle, en fait, ils ont mis en place une concertation préalable, ça c'était pas obligatoire dans le dossier, qui se passe en fait avant l'étude environnementale, parce que l'étude environnementale c'est un gros boulot et puis ça représente des frais, donc ils la lanceront que si ils décident de poursuivre le projet. Donc ils ont nommé la CNDP pour mener un débat et ils ont nommé deux garants en juin qui ont rencontré tous les élus concernés, plus la commune de Modane parce qu'ils sont limitrophes, en juillet 2022. Donc le garant, c'est un des deux garants, c'est M. Chevalier qui est en visio avec nous. La concertation préalable, ils essayent déjà d'informer les gens et de suivre un peu ce qui se passe justement avec nos réunions, puisque l'idée c'est d'arriver assez informé à la concertation qui au départ était prévue fin 2022 et qui a glissé sur début 2023. On n'a pas encore il y a deux jours, on n'avait pas les dates exactes, peut-être qu'on va en savoir plus. Et du coup, à l'issue de cette concertation, qu'on a mis en rouge parce que ça nous paraît vraiment le moment clé où justement il faut être outillé pour s'exprimer, il y aura un rapport de la part des garants un mois après, qui du coup est un rapport exhaustif sur tout ce qui est remonté, tout ce que... Là, un élu n'a pas plus de poids qu'une association ou qu'un citoyen tout seul. En fait, ils font remonter tous les arguments qui ont été évoqués, et pendant la concertation, bah, ils vous expliquera, ils garantissent qu'on a des réponses à toutes nos questions de la part du maître d'ouvrage. Eux, en fait, ils sont là pour conseiller le maître d'ouvrage sur la façon dont devrait se dérouler le débat pour qu'on ait la bonne information et qu'on puisse vraiment s'exprimer et que tout remonte. Voilà. Et donc, deux mois après le rapport des garants, donc qui pourrait potentiellement être mai-juin, fin du printemps 2023, là, la préfecture décidera si elle poursuit ou non le projet, avec ou sans modification. Donc, les ZSC n'ont jamais été soumises à concertation préalable, c'est la première fois, il y en a 15 en France, et donc on ne sait pas si elle va avoir un poids ou pas, cette concertation. Mais vu qu'elle n'était pas obligatoire, on se dit déjà qu'ils ont quand même voulu prendre notre avis. Et puis, à l'issue des concertations préalables, en général, on a eu des petites stats qui disent qu'il y a 10% des projets qui sont purement et simplement abandonnés, 60% qui sont modifiés, et 30% qui continuent tels quels.
Alors, en conclusion, donc depuis notre première réunion d'échange qui a eu lieu au Bourget, c'était le 9 novembre 2022, il y a eu pas mal de discussions houleuses parfois, souvent. Il y a eu une réunion publique initiée par le conseil municipal à Bramant, et il y a eu d'autres réunions d'échange, une à Bramant, une à Modane. Enfin, notre but était d'informer pour être donc prêt pour la suite. Nous insistons sur le fait que nous ne voulons pas créer la panique, l'affolement ou pire la mésentente, car ce serait nous rendre plus vulnérables aux yeux des décideurs. Nous devons bien sûr rester unis. Comme il a été dit à Bramant en réunion publique, on a bien compris que ce projet venait d'en haut, que c'était un projet initié par l'État, c'est pas un projet qui vient de nos communes, mais nous c'est bien ça qui nous inquiète. Car nous savons que le levier citoyen ou le levier de nos communes est faible face à celui de l'État. Nos communes, à leur échelle, avec leurs moyens, nous l'espérons, plutôt nous l'attendons, seront à nos côtés pour défendre la vallée. Nous attendons en effet de nos communes une écoute sans mépris, sans minimiser nos inquiétudes et surtout sans minimiser l'ampleur de ce projet pour rassurer la population. Alors après tout ce qu'on vous a dit, vous devez vous demander que faire aujourd'hui. Alors depuis la réunion du Bourget, ben, il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été faites. Il y a un collectif qui s'est monté, on pourra vous en dire plus un peu plus tard. Il y a une page Facebook, il y a une pétition qui a recueilli 1500 signatures en 2 jours. Et du coup, des médias se sont déplacés aussi. Donc ben, nous, on trouve que les choses ont quand même déjà pas mal avancé. Malgré ça, il faut quand même garder à l'esprit que nous sommes tous libres de nos actes, adultes et responsables, pour agir. Donc nous restons persuadés que ce qui est important, c'est que l'État sente que ce projet ne se fera pas en Maurienne sans que personne ne bouge. Donc vous pouvez contacter le préfet, le sous-préfet, la députée, pour donner votre avis, exprimer vos inquiétudes. Dans une chronologie proche, on en a parlé à plusieurs reprises, mais c'est vraiment le plus important. La phase de concertation va démarrer avec la présence des garants, du préfet, du sous-préfet. Et c'est vraiment dans cette phase que les choses vont se jouer. Là, le garant n'a pas trop... il a insisté un peu dessus, mais pas trop. À Modane, il avait vraiment dit que c'est le seul moment où la population pourra s'exprimer. Donc à ce moment-là, il faudra qu'il y ait du monde aux réunions publiques, qu'il y ait des arguments pertinents. Et ça, il a bien dit, par contre, qu'à la concertation, il ne s'agit pas de dire on est pour ou on est contre, mais pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre. Et pour arriver à avoir des idées claires, eh ben, il faut s'informer. Donc nous, on va continuer à vous informer, mais c'est à vous aussi d'aller lire ce dossier, qui n'est pas si compliqué que ça. Je rappelle, au nom de notre petit groupe, que nous, on s'est retrouvés plongés dans un projet brûlant et qu'on n'a pas voulu garder les informations pour nous. Le but était d'informer avant ces phases de consultation et de réunion publique pour que nous ayons tous un jugement éclairé sur le dossier. Il semblerait que c'est chose faite, mais la route est encore longue. Pour être plus lisible, donc il y a ce collectif qui s'est monté et on va continuer à vous donner les dates et les moyens de s'informer. Je crois qu'il faut passer au-delà des questions de savoir qui était au courant, qui ne l'était pas. Aujourd'hui, il faut passer sur cette phase, même si nous, on se les est posées aussi et que ça a été difficile pour nous de passer au-dessus. Mais aujourd'hui, il faut être ensemble, unis pour réagir. On nous dit, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, certains nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, que les choses vont se faire en temps et en heure. Eh bien, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour notre cadre de vie, pour notre qualité de vie en Maurienne, pour le tourisme d'été comme d'hiver, pour l'agriculture et pour les générations à venir. Je vous rappelle que ce projet permettrait d'alimenter l'usine de Chambéry pendant 120 ans. Donc nous sommes concernés, nos enfants le sont aussi. Si vous souhaitez rester informés, inscrivez-vous sur les feuilles au fond de la salle. Normalement, il y a des feuilles qui sont mises à disposition. Inscrivez vos adresses mail. Et vous aurez la suite des informations.